Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Parmi les maux qui rongent la société congolaise, on cite la corruption. L'impunité a favorisé le développement de cette pratique, affirment certains observateurs. Les gens impliqués dans une affaire de corruption sont rarement inquiétés par la justice. Bien au contraire, ils vaquent librement à leurs occupations, au vu et au su de tout le monde. Alors, qu'est dit la loi congolaise à propos de la corruption entre les corrupteurs et les corrompus? Qui est condamnable? Maître Kabengela Ilunga. Vous êtes avocat, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que dit la loi à propos de la corruption?
À propos de la corruption...
D'abord, comment la loi définit la corruption?
La loi définit la corruption comme le fait pour un agent de l'État ou toute personne chargée des intérêts de l'État dans une société étatique ou para-étatique, ou même dans une société privée, mais représentant les intérêts de l'État, d'agréer les offres, les dons ou les promesses pour faire les actes, poser l'acte de sa fonction, s'abstenir de poser l'acte qui lui est légalement réclamé. Alors, cela étant, vous comprenez bien entendu que la loi vise plus le corrompu. Mais lorsque vous descendez avec les dispositions légales, vous constaterez que la loi aborde également la question du corrupteur, qui sont sanctionnés des mêmes peines énumérées par la loi.
Alors, quelles sont les peines qui sont prévues en cas de corruption lorsqu'on se retrouve devant une telle situation?
Il y a la peine de 2 ans qui peut être doublée à 4 ans. Il y a la peine de 10 ans lorsque le corrompu a agréé les offres, les dons ou les promesses pour poser les actes relevant de sa fonction ou s'abstenir de poser l'acte qui lui est régulièrement demandé. Mais lorsque, à l'occasion de cette corruption, l'agent de l'État ou la personne qui représente les intérêts de l'État parvenait à commettre une infraction, en ce moment-là, la peine est portée à 15 ans. Donc il y a toute une série et toute une classification et des distinctions à faire dans l'appréciation que le juge devra faire des faits lui soumis.
Voilà. Alors, donc la peine varie selon les circonstances, selon les cas.
Voilà.
Selon les cas. Alors lorsqu'il y a un cas de corruption, qui veut porter plainte et comment? Quelle est la procédure pour déclencher ce mécanisme?
En principe, dans pareille circonstance, il s'agit des intérêts de l'État qui sont mis en jeu par la corruption, parce que la corruption amène au dysfonctionnement, à la déréglementation de la vie publique. En ce moment-là, c'est l'État via le parquet qui a l'information, qui a des indices faisant état de la commission d'une infraction de corruption, qui doit mettre en mouvement le mécanisme pour rechercher les auteurs et les arrêter, les traduire devant le juge compétent. Mais ce qui souvent est dans notre pays est curieux, que le parquet souvent ne font pas leur travail. Quand bien il y a des indices de corruption, le parquet garde silence. Je puis vous donner les cas de ce qui se vient de se passer au Palais du Peuple. Et pour tout juriste averti, il y a eu des traces de corruption, parce qu'on ne peut pas s'expliquer comment les députés, après avoir posé des signatures, peuvent les retirer dans moins de 3 jours. Quel élément nouveau qui justifie le retrait? Donc tout ça.
Les gens disent c'est pour des convictions personnelles.
Pour des convictions personnelles. Et quand ils posaient la signature, quelles étaient leurs convictions? Vous voyez tout ça? Mais un parquet responsable devrait mener des investigations pour savoir le retrait des signatures répondait à quel impératif. Est-ce un impératif de monnayage ou tout simplement par des convictions politiques? Voilà.
Bien. Alors, entre celui qui corrompt et celui qui est corrompu, et qui est puni par la loi, et à quelle proportion?
Les deux sont punissables, mais vous serez surpris que notre législateur a prévu beaucoup de sanctions contre le corrompu. Celui qui accepte les offres, celui qui accepte les dons, les promesses. Curieusement, c'est au niveau de l'article 149 bis que l'on trouve des sanctions communes et aux corrupteurs et aux corrompus. Et là, vous trouvez la confiscation de la rétribution perçue. Vous retrouverez l'interdiction pour 5 ans au moins et 10 ans au plus après exécution du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques par étatique, quel qu'en soit l'échelon. Donc il y a toute une gamme de sanctions qui... Et vous voyez, là, le législateur dit le coupable de la corruption active ou passive sera en outre condamné. Donc les deux peuvent être condamnés des sanctions que l'article 149 bis énumère.
Bien, nous avons en ligne Maître Ken Mukendi. Il nous appelle de Kananga, en province, dans la province du Kasaï occidental. Maître Ken, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je précise que je suis en Mbujimayi et non à Kananga.
Vous êtes plutôt en Mbujimayi et non à Kananga. Merci pour la précision. On vous écoute.
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer l'invité du jour, qui est un ami personnel que je connais, collègue de classe, Maître Kabengele. Et puis, j'ai deux petites préoccupations. La première, c'est que il y a dans notre société un phénomène. On remarque que lorsque quelqu'un est nommé ou élu à un poste important, je cite le poste de ministre, même du président de la République, poste de gouverneur, même le chef coutumier, il y a des dons que les connaissances amènent. Et ce ne sont pas des dons d'une manière désintéressée. Donc on donne les dons, parce que j'aime être précis, on donne les dons de manière que l'autorité puisse vous ficher de façon que vous avez un service, que ce service vous soit rendu avec beaucoup plus de facilité. Est-ce que cela peut être considéré comme une corruption? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, que Maître Kabengele précise par rapport à la plainte, parce que les deux, le corrupteur et le corrompu, sont des coupables. Qui peut, dans un cadre d'espèce précis, porter plainte? Parce que je n'ai pas bien entendu sa réponse. La question a été posée par le journaliste. S'il peut apporter la précision quant à ce.
Merci, Maître Ken. Maître Kabengele.
Merci beaucoup. Pour la première, je salue Ken, qui est mon ami personnel. Je le salue. Je dis que par rapport aux offres que l'on apporte à un ministre qui vient d'être élu au président de la République...
Mais on le voit souvent, même les ressortissants des tels coins qui vont voir leurs frères pour célébrer, on apporte des cadeaux, tout ça. Ou les agents des ministères, dès que le ministre arrive, voilà, on lui apporte des cadeaux.
Bon, ça c'est des dons qui sont faits dans les relations humaines qui ne justifient pas que la personne à laquelle on apporte ses dons puisse poser un acte précis.
Mais quelle est l'intention derrière?
L'intention, c'est de garder des relations humaines. Vous savez, dans le monde de la globalisation, vous devez, il l'a dit, être fiché, être reconnu parmi les gens qui ont été contents. Peut-être j'aurais perdu de vue que vous existez comme maintenant là. Maître Ken, c'est un ami. Maintenant que nous sommes par vos ondes, nous sommes en communication. Il est encore là, il m'a félicité. Donc, ça n'a rien à voir avec la corruption. Le corrompu ou le corrupteur doivent s'accorder l'acte précis à poser, sur lequel. Mais lorsque l'acte précis à poser n'est pas connu, il ne s'agit pas de la corruption. Parce que le droit pénal, c'est d'abord d'interprétation stricte. Il ne faut pas aller au-delà de ce que le législateur a prévu. Sa deuxième question, c'est par rapport à celui qui doit porter plainte.
Oui.
Donc, sur le plan purement de la psychologie du criminel, il est absurde d'attendre du corrompu ou du corrupteur de porter plainte, parce que tous se trouvent sous le lien du répressif. Porter plainte contre le corrompu, vous allez dire que moi je l'ai corrompu, mais il ne m'a pas rendu ce que j'ai attendu, mais vous mettez vous-même sous les poursuites. C'est pour cela, pour bien poursuivre l'infraction de corruption, le parquet doit être très actif et ne jamais attendre ni du corrupteur, ni du corrompu, que plainte soit faite.
Voilà. Même les témoins, il y a certaines personnes qui... Les témoins ou,
oui, le témoin
qui ont appris.
Voilà, le témoin ne porte pas plainte. En droit, on dit que le témoin va dénoncer. Le témoin peut dénoncer. À partir de la dénonciation, le parquet doit maintenant mettre en mouvement l'action publique.
Bien. Soufi Niembo nous appelle de Kalima et Blanchard Luana de l'Université de Kinshasa. Et un coucou spécial à tous les auditeurs de Capi Service sur la colline inspirée. Soufi Niembo, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel, bonjour à notre invité, bonjour à cette équipe d'Okapi Service. J'ai des questions. La première question, je pose au côté des négatifs. J'ai dit au côté de mes contentements, par exemple, les travailleurs qui sont engagés, les ouvriers, on lui dit, par exemple, de rester pendant un mois de travail pour un salaire de 25 000 francs. Mais lui est le gardien de plusieurs choses, par exemple, les bois et tout qu'on sort. Bon, c'est 25 000 francs là, mais le monsieur trouve qu'il n'est pas suffisant. Il prend certains bois et certaines d'autres choses, il vend. Est-ce que là on peut dire la corruption? Prenons aussi le cas de certains vendeurs qui sont engagés aux boutiques et aux magasins. Ici chez nous, on les paye 30 000 francs, mais le monsieur a la femme et d'autres charges. Est-ce que ces 30 000 francs sera suffisant? Pour seulement des semaines, les 30 000 francs étaient écoulés. Bon, le montant n'est pas suffisant. Bon, je donne aussi un autre exemple, je dure pour terminer. La question aussi de l'impunité ou la corruption, si chez nous, c'est fait comment? Par exemple, si vous êtes un enseignant, vous enseignez dans une classe où il y a tant de filles belles et tout ça, vous voulez faire leurs besoins. Bon, vous allez faire bon pour ne pas être pris par mon dirigeant. Je vais tenter de lui dire bon, mon dirigeant, j'ai une fille d'où je vous ai préparé. Bon, prenez-la pour ne pas mes attaquer. Voilà, je vous remercie.
Merci Soufi Niembo pour toutes ces questions. Blanchard Luana sur la colline inspirée à l'université de Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour Jody.
On vous écoute.
Oui, ma question est de savoir si l'invité peut nous aider à donner quelques d'autres formes de la corruption en dehors de l'argent. Parce que quand moi j'ai passé mes prestations du stage au parquet de Mbandaka, bon, quand on faisait ce stage, il y avait des problèmes, des conflits.
Oui, Blanchard.
Pour l'attendre.
Blanchard, on vous entend. Il y a par des moments où la liaison n'est plus bonne. Veuillez vous déplacer un tout petit peu. Ça peut s'améliorer et vous pouvez poser votre question.
Oui, allô, maintenant vous m'entendez?
Oui, 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 ça va. Allez-y.
Oui, je disais. Bon, il arrivait des fois quand on est là pendant les prestations de stage.
Oui.
Un magistrat vous confie un dossier là. Mais il vous dit non, vous pouvez attendre ce papa comme ça, il va vous donner ses allégations par rapport aux accusations qu'on a portées contre lui. Après avoir instruit ce dossier, il y a ce papa qui vous donne, par exemple, « Ah, mon enfant, tu es fatigué, prends ne fût-ce que ces 1000 francs pour ton transport. » Maintenant, j'aimerais savoir si...
C'est une forme de corruption.
Comme une corruption, voilà.
Merci Blanchard. Franck nous appelle depuis Siro, bonjour.
Bonjour, monsieur l'animateur.
On vous écoute.
Et bonjour à l'invité.
Bonjour.
Je voulais dire ceci. L'infraction de la corruption, c'est une infraction qui se commet presque chaque jour et chaque heure. Mais je voulais savoir, par rapport à l'une des missions du ministère public ainsi que ses auxiliaires qui sont les OPJ, c'est la recherche des infractions. Mais malheureusement, ce que je constate, nos OPJ veulent plutôt rester dans leur bureau. Je ne sais pas comment est-ce que cette mission qui leur est confiée de rechercher les infractions, est-ce qu'un OPJ peut se lever, se réveiller d'un matin, entrer dans des bureaux pour rechercher les infractions? C'est une infraction qui se commet presque chaque jour. Et aussi, je ne sais pas quelle politique faut-il appliquer quand ces OPJ-là qui sont censés de réprimer les auteurs de la corruption et même sont corrompus. Je ne sais pas qu'est-ce que l'invité peut nous dire par rapport à ça.
Merci.
Voilà ce que j'avais un peu à dire.
Merci, Maître Kabengela.
Par rapport à la dernière question, les OPJ doivent, à la suite du ministère public, rechercher les infractions et les auteurs de celles-ci. Rester dans le bureau, cela n'équivaudrait pas à la recherche de ces infractions. Si les OPJ eux-mêmes sont corrompus, comment peuvent-ils rechercher le corrupteur ou le corrompu? Donc, c'est une question d'état des sociétés, de la politique des sociétés. Vous savez, nous avons le malheur dans notre pays de ne pas discuter des questions des sociétés, des questions qui intéressent la gouvernance, les questions qui intéressent le devenir de notre pays. C'est très malheureux, on assiste impuissant parce que nous assistons à une sorte d'un groupe qui se protège mutuellement, à commencer par les détenteurs du pouvoir politique, les détenteurs même du pouvoir exécutif. Donc, le peuple congolais assiste impuissant à ces fléaux appelés corruption où il n'y a personne qui a la charge de poursuivre ni le corrupteur ni le corrompu.
Mmh. Eh bien, et Soupi Nyembo de Kalima, il parle d'un monsieur qui a un surveillant de bois à qui on paye 25 000 francs congolais et un autre qui vend dans un magasin et qui reçoit 30 000 francs congolais. L'argent est insuffisant, alors il se permet de voler quelques biens pour aller vendre. Il veut savoir si c'est une forme de corruption.
Non. Pour qu'il s'agisse d'une corruption, il faudrait que la personne qui reçoit le don ou les promesses soit invitée à poser un acte de sa fonction au profit de celui qui lui amène des offres et des dons. Lorsqu'on n'attend pas cet acte ou qu'il s'abstienne, si on n'attend pas ces deux gestes de la part de celui qui reçoit le don, les offres ou les promesses, il ne peut pas s'agir de corruption.
Mmh. Et il parle d'un enseignant qui a l'habitude, la mauvaise habitude de sortir avec les élèves. Et voilà, pour être protégé par les directeurs, il va proposer au directeur une fille parmi ses conquêtes. Il veut savoir également si c'est une forme de corruption.
Ok, là maintenant nous rentrons dans le cadre de la corruption. Pourquoi ? Parce que maintenant, le directeur a la capacité d'administrer des sanctions à l'enseignant. Maintenant, l'enseignant lui fait des promesses, lui amène la promesse de sortir avec une fille.
Oui.
Là, ça rentre dans le cadre des promesses faites à l'autorité qui a le pouvoir de décider. Alors, avec ce que l'enseignant apporte au directeur, le directeur va s'abstenir de poser l'acte qui relève de son devoir. Mmh. Donc nous rentrons bel et bien dans le cadre de la corruption.
Blanchard de Luana, il dit quelles sont les autres formes de corruption. Il a eu à travailler à Mbandaka lors de son stage. Il dit un magistrat peut vous donner un dossier et l'accusé vient, bon, mon enfant, tu as travaillé, tu es fatigué certainement, et vous propose un peu d'argent. Est-ce qu'il s'agit-il de la corruption ou pas?
Non, parce que l'absence de l'acte attendu de l'agent à qui l'on remet l'argent fait de faux. Il faudrait, qu'est-ce que ce papa-là attend du stagiaire? Aucun acte n'attend. Il lui a tout simplement gratifié du transport sans lui demander de poser tel acte ou de ne pas poser tel acte. Donc là, un des éléments constitutifs de la corruption faisant de faux, on ne peut pas parler de la corruption.
Mais le fait de donner l'argent, ce n'est pas une façon de vous conditionner un peu?
Pour poser quel acte? Ou pour vous abstenir?
Pour influencer.
Quel acte? Lorsqu'il y a absence de l'acte attendu, lorsqu'il y a absence de l'abstention attendue dans un sens ou dans l'autre, un des éléments constitutifs de l'infraction de corruption faisant défaut, on ne peut plus parler de la corruption.
Bien. Et Franck, voilà, vous avez déjà répondu à Franck. Deux autres auditeurs en ligne, vous voulez participer, appelez-nous au 081-890-63-94.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Qu'est-ce que dit la loi congolaise à propos de la corruption entre les corrupteurs et les corrompus? Qui est condamnable? Eddie Muzola, vous nous appelez de Kikwit et Ogi Bendelo est également dans la même ville. Eddie Muzola, on commence par vous. Bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, je précise que mon nom, ce n'est pas Eddie Muzola, mais c'est Tony Muzola.
Tony Muzola, Tati.
Oui.
Bien, merci, on vous écoute.
Je voulais juste poser la question à l'invité de savoir si l'OPJ qui instruit un dossier que le plénière a porté plainte. Alors, le plénière fait des promesses à l'OPJ qu'il va lui donner deux sacs de maïs au cas contraire où il met l'accusé en détention. Est-ce que cela est constitutif de l'infraction de la corruption? Merci, c'est ça ma préoccupation.
Bien, merci Tony. Ogi Bendelo, vous êtes également à Kikuit. Bonjour.
Rebonjour, M. Jody. Je salue également notre invité, M. Kabengé Layelunga.
On vous écoute.
Oui. Si la loi définit la corruption comme étant, comme notre invité venait de le dire au début, et si les deux sont condamnables, c'est-à-dire les corrupteurs et les corrompus, cela est bon à dire et bien écrit dans notre constitution, mais sa pratique est réduite au néant parce qu'on a constaté surtout dans notre pays que la corruption est un vaccin et la loi n'est plus loi, mais c'est plutôt les connaissances et le tribalisme qui ont une grande valeur. Merci beaucoup.
Merci pour cet apport, Maître Kabengela.
Oh.
Tony dit que l'OPJ instruit un dossier et le plaignant lui promet deux sacs de maïs s'il arrive à condamner.
Là, nous sommes de plein pied dans la corruption.
Oui.
Et le corrompu et le corrupteur sont condamnables. Parce que là, il sollicite un acte de la part de l'OPJ pour que l'OPJ Mordicus puisse condamner l'accusé. Voilà. Et par rapport à celui qui dit, bon, le corrupteur et le corrompu, mais il dit qu'il s'agit là de deux poids, deux mesures.
Oui, les deux sont condamnables.
Ils sont condamnables.
Oui, bien sûr.
C'est ce que je dis. Et vous savez, même dans le cas qui passe actuellement sur les ondes, le cas de Denis Lessy.
Seulement il a déploré que aujourd'hui dans notre pays, il dit que c'est devenu un vaccin.
Non, le cas de Denis Lessy, les gens parlent de corruption. Mais est-ce que lorsque vous analysez les éléments constitutifs de la corruption, on peut parler de la corruption? Il s'agit là d'un cas d'escroquerie. Parce que qu'est-ce que la victime attendait de Denis Lessy? Denis Lessy est-il dans le service public? Est-il chargé du mandat public? Non. Lorsque cette qualité-là fait défaut, on comprend que l'autre n'a fait usage de fausses qualités. Il s'est fait entourer des personnes pour induire sa victime en erreur et lui soutirer de l'argent.
Il s'agit d'un cas d'escroquerie.
D'escroquerie et non. Alors, nous sommes choqués lorsqu'on entend des gens parler de corruption, corrupteur, corrompu. Donc, sauf s'il y a corruption, c'est-à-dire le chef de l'État ou le Premier ministre, et Denis Lessy ne serait que l'intermédiaire.
Donc on parle de corruption quand un agent de l'État est impliqué.
Est impliqué.
Oui.
Ou lorsque vous êtes chargé des intérêts de l'État. Est-ce que Denis Lessy était chargé des intérêts de l'État?
Non.
Dans quelle structure? Donc nous sommes purement dans le cas de l'escroquerie. Donc il faut que les gens apprennent à d'abord lire le dossier, et lire également le texte légaux qui prévoient les infractions.
Entre un corrupteur et corrompu, qui est condamnable? Maître nous a dit tout à l'heure, tous les deux sont condamnables par la loi. Marcel Ibakanga, vous êtes à Paris, en France. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur l'animateur. Bonjour aussi à l'invité. Je participe un peu à l'émission. J'allais juste, avant de poser la question... à notre invité, à votre invité plutôt. J'allais juste faire une réflexion, hein, parce que je crois que votre émission, c'est une très belle émission, mais sauf que je souhaiterais qu'on tienne compte du public cible aussi, parce que beaucoup de personnes, vous traitez des très belles sujets, hein, de beaux sujets que les Congolais en ont besoin pour l'instant. Sauf que ça se passe en français et que la majorité des publics, vous savez aussi la population congolaise, une grande partie parle les Lingala qui n'accèdent pas à l'émission, hein, qui serait vraiment souhaitable de les sortir de cette ignorance. Hein, c'était juste une parenthèse que je voulais faire.
Merci,
parce
Marcel.
Qu'à chaque fois, je les suis de très loin et ça, j'ai un peu mal au cœur de voir que ça se passe en français. Pourtant, nous avons à peu près 53% des analphabètes qui en ont besoin surtout de ça, parce qu'ils se font abuser aussi. Hein.
Okay.
Alors, moi, je vais revenir sur l'invité pour lui dire, je crois que, c'était déjà un sujet. Moi, j'aurais souhaité qu'on parle plus des causes de la corruption, des conséquences sociales, parce que là, je trouve que vous parlez comme un fait divers, que c'est comme si c'est quelque chose d'autorisé, bien que vous basez sur l'aspect juridique. Parce qu'on devait d'abord commencer à voir qu'est-ce qui provoque. Moi, je vais illustrer un exemple simple. parce que vous avez en face de vous un magistrat, je ne sais pas si
c'est un avocat.
Un avocat. Voilà, un avocat. Mais j'aimerais poser la question, hein, c'est juste ça. C'était juste ce qui m'a poussé à intervenir. Lui, il est chargé de, voilà, de chargé d'exécuter la loi. Le magistrat, je me base sur les magistrats. Parce que là, le magistrat qui arrête une personne, qu'on est allé les chercher chez lui, il connaît l'adresse. Et la personne, à ce moment, la fuite n'est pas tout de suite dit, la personne ne pourra pas fuir parce qu'il a une adresse. Mmh. Mais les magistrats qui font un mandat d'arrêt pour lui, pour le mettre en prison, enfin, pour qu'il demande à la personne, hein, il abuse de son pouvoir, pour qu'il demande à la personne de lui payer la mise à liberté provisoire. Et comment réagit un peu l'avocat face à ça? Moi, je voudrais poser la question parce que c'est le magistrat qui provoque la corruption. Je ne sais pas, en provoquant cette corruption, qu'est-ce que vous dites au magistrat?
Bien.
Qui est de la justice?
Merci, monsieur Marcel Bakanga. En fait, aujourd'hui, on aborde d'abord l'aspect juridique. Hein. Il y a d'autres fois, on peut parler de l'origine, des conséquences sociales, mais aujourd'hui, on se limite à l'aspect juridique. On aura l'occasion
de parler de l'aspect juridique. J'allais juste poser la question. Oui. La personne qui provoque la corruption,
d'accord,
comment réagit l'avocat en face de ça? C'est un peu ça que j'allais illustrer dans ma démarche.
D'accord. Merci, Marcel Bakanga, depuis Paris, en France. Kalamou nous appelle des Kamina, dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, Lokapi. Bonjour, l'invité.
On vous écoute, Kamina.
Ma préoccupation était d'avoir un témoin à charge ou à deux charges devant la barre. Est-ce que peut-il tomber dans une infraction de corruption?
Un témoin à deux charges.
À charge ou à deux charges.
OK.
En apportant sa déclaration, peut-il tomber dans cette infraction de corruption?
Bien, merci Kalamou. Maître Kalamela.
Merci. Par rapport au premier intervenant, nous devons dire que le magistrat qui provoque la corruption.
Qui demande de l'argent pour accorder une liberté provisoire.
Il crée des conditions pouvant permettre à sa victime de pouvoir verser les sommes d'argent. S'il le reçoit, il est corrompu. Il n'y a pas de mot. Donc il a créé tout simplement le conditionnement pour pousser sa victime à pouvoir libérer l'argent. Mmh. Alors, si c'est lui-même qui provoque et qui reçoit, il n'y a pas complicité, il est regardé comme le corrompu. Mais s'il fait par intermédiaire, comme l'intermédiaire devient complice ou co-auteur de la corruption. Un témoin à charge ou à décharge devant la barre peut-il être poursuivi pour tentative ou corruption? Je dis cela dépend de l'espèce. Mais le plus fréquent, nous assistons à cette infraction qui n'est pas trop connue, subornation des témoins.
Qu'est-ce que cela veut dire?
Subornation des témoins, c'est approcher un témoin, lui donner de l'argent, lui faire des promesses pour qu'il dise le contraire de la vérité qu'il connaît.
Okay.
Donc, il nous est parti au procès, approche un témoin, dit, bon, quand vous allez là-bas, dites que c'était ceci, c'était cela. Alors, contrairement à ce que le témoin connaît, bien entendu, en lui promettant de l'argent ou en lui faisant des promesses.
Des promesses.
En ce moment-là, on ne tombe pas dans l'infraction de corruption, on est dans celle de subornation des témoins. Pas subordination, subornation.
Subornation des témoins. Voilà. Et quelles sont les sanctions prévues en cas de subornation des témoins?
Alors, je ne peux pas vous dire avec précision, mais sinon, il y a des sanctions qui sont prévues.
Pardon?
Il y a des sanctions qui sont prévues.
Il y a des sanctions qui sont prévues. Voilà. Bien, merci, Maître Kabengela. On retient, entre les corrupteurs et les corrompus, tous les deux sont condamnables par la loi.
Condamnables par la loi.
Mais à quelle proportion?
Des mêmes sanctions.
Même sanctions.
C'est question maintenant d'établir dans le chef de tel quels sont les éléments qu'on a retrouvés. Mmh. J'ai fait la distinction ici que contrairement à notre législation, c'est l'article 149 bis qui détermine les sanctions communes aux corrompus et aux corrupteurs. Mais par rapport aux sanctions individuelles, on trouve plus de sanctions pour le corrompu que
pour le corrupteur.
Pourquoi? Parce que ici, le législateur veut protéger les mandataires de l'État, ceux qui gèrent les intérêts de l'État, pour garantir la moralisation de la vie publique, politique d'un État. Étant donné que la personne qui vient souvent avec la corruption ne connaît pas tellement ce que c'est la corruption. Voilà pourquoi notre législateur s'est beaucoup penché sur le comportement de gérants des intérêts de l'État. Et l'article 149 bis, le législateur propose les sanctions communes et aux corrompus et aux corrupteurs.
Et les sanctions peuvent aller de...
Jusqu'à 15 ans.
15 ans d'emprisonnement.
Jusqu'à 15 ans d'emprisonnement.
Maître Kabengela Ilunga, avocat, merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, Kassam.